Bonjour tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 5 avril 2017. Christophe Rollin au micro, émission numéro 128. Gérald, tu te rappelles la règle, hein, ce n'est pour l'instant que moi qui parle et pourtant il y a du monde qui souhaiterait parler. Isa peut-être, hein, qui est de retour. Salut Isa. Il y a aussi Damien Gouy, présent avec nous, fondateur, je ne sais comment le nommer, de la compagnie Théâtre, le Théâtre en Pierre Dorée, ainsi que Julien Gauthier, il est également présent, metteur en scène et comédien principal de la pièce donnée actuellement jusqu'au samedi 8 avril au TNP, Le Menteur de Corneille, 1643, une pièce absolument géniale à la lecture, et encore mieux quand on la voit sur scène au TNP, la petite salle Jean Bouise. On va en parler pendant toute cette heure jusqu'à 15h, comme tous les mercredis, les 14h05, donc je m'arrête tout de suite de parler, écoutons un peu de musique de l'époque, m'a dit Gérald, Marin Marais, Le Tourbillon, et puis après, eh bien, nous tourbillonnerons jusqu'à 15h avec nos invités, et vous nous écoutez sur le radiocanu.org si vous le faites sur internet, très bien, ou peut-être plus simple à Lyon, le 102.2 de la bande FM.
Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, bonjour.
Salut tout le monde.
Bonjour.
Eh bien, nous écoutions pour lancer l'émission Le Tourbillon. Alors c'est un peu plus tardif que 1543.
1643.
Pardon, 1643, ce serait plutôt à la fin du 17e, début 18e. Hein. C'était un extrait, donc Marin Marais, Le Labyrinthe et autres histoires à partir de Versailles, par l'ensemble de Paolo Pandolfo, qui était à la viole de gambe. Voilà. Pour
très
introduire
bien
cette émission.
Une émission en compagnie de Julien Gauthier et Damien Gouy, qui sont tous les deux liés à la troupe du théâtre du TNP. Et d'ailleurs, je vais les laisser se présenter, parler d'eux-mêmes un peu, puisque, hein, Gérald, question initiale, question à chaque fois que nous lançons en début d'émission. Qui êtes-vous, vous comédien, qui vous trouvez derrière ce micro aujourd'hui? Certes, vous êtes là pour parler de cette pièce, je le redis encore une fois, Le Menteur. Pierre Corneille, 1643, donné actuellement au théâtre, au TNP, 20h30, c'est bien comme horaire, jusqu'à ce samedi 8 avril, et c'est bien, c'est même très bien.
1h45, tout public à partir de 13 ans.
Sans entracte. Mais ça, nous en parlons dans un deuxième temps, avec la question qui sera, mais que faites-vous actuellement? Donc je vous en prie, comment est-ce qu'on distribue
Moi, Julien,
Damien, Julien?
Oui, donc bonjour à tous, donc, moi je m'appelle Julien Gauthier, alors pour me présenter... je vais parler de mon rapport au théâtre.
Oui.
Donc déjà, je suis d'une famille donc d'acteurs sur trois générations. C'est vrai que j'ai eu le plaisir de partager des moments de théâtre depuis mon enfance. Et par la suite, j'ai beaucoup travaillé. J'ai commencé jeune, forcément, puisque j'étais impliqué dès le plus jeune âge. Et ensuite, je vous passe les détails, mais je suis rentré à l'ENSAT.
Un détail. Vous avez fait des castings, des tournages ou je ne sais.
Oui. Alors au niveau des castings, alors c'est comme ça que j'ai commencé, hein, parallèlement à mes cours de théâtre. Je faisais le fils de Madame le Proviseur dans Madame le Proviseur sur France 2.
Qui est-ce d'ailleurs, le Proviseur?
C'était Charlotte de Turckheim.
Ah, j'allais dire Muriel Robin. Non, je me trompe, ça c'est autre chose.
Ensuite, j'ai participé à KD2A, ça c'est assez connu, où je faisais comme ça des mini-sketchs, pareil sur France 2, il me semble, le matin entre les dessins animés. Bon, ça c'est un peu anecdotique.
Mais si, vous n'étiez donc pas à Lyon, je suppose, à l'époque alors.
Non,
si
voilà, ouais, moi je suis parisien de naissance. Et voilà, donc du coup, j'avais un agent et tout ça, et je travaillais. dans le cadre de séries télévisées. Et ensuite, j'ai pu enchaîner avec une série qui s'appelait Vénus et Apollon, donc qui se passait dans des...
Salon de beauté.
Institut de beauté, voilà, exactement.
Oui, c'était un film, je crois, au départ,
c'est ça. Voilà, c'était un film de Tony Marshall. Voilà,
qui devient ensuite une sorte de série sur Arte.
Voilà, donc là, j'ai eu la chance de rencontrer des super actrices... Maria de Medeiros, puis il y avait un casting incroyable. Par ailleurs, j'ai fait des courts-métrages, notamment un court-métrage qui a beaucoup marché, notamment l'un des courts-métrages qui s'appelait Far West de Pascal Alex Vincent. J'ai eu aussi la chance d'être jeune talent à Dami, donc tout ça, ça m'a lancé un petit peu comme ça. Je sais plus, je devais avoir 18 ans, on a monté les marches à Cannes et tout, c'était assez impressionnant. Enfin, voilà, c'est des souvenirs comme ça de mes débuts. Et bon, moi, mon objectif, ça a toujours été de faire du théâtre, hein, parce que l'aspect séquencé comme ça dans un film me parlait moins pour le moment présent que la scène. Malgré mon goût en tant que spectateur pour le cinéma très fort, en tant que voilà praticien, le théâtre m'attire beaucoup plus dans un rapport direct avec le public, dans un échange avec les acteurs et l'auteur, beaucoup plus fort. Donc ensuite, voilà, j'ai fait 3-4 ans comme ça de théâtre dans les écoles privées à Paris. Je suis arrivé à l'école de Chaillot, j'ai beaucoup travaillé au Théâtre du Nord-Ouest, où là j'ai pu faire un peu mes armes sur des pièces classiques, notamment de Victor Hugo. Et après je suis rentré à l'ENSAT, et suite à l'ENSAT, je suis rentré dans la troupe du TNP avec Christian Scaretti. Voilà, et c'est à l'ENSAT que j'ai rencontré Damien Gouy, et après on a commencé notre camaraderie au TNP, où on a fait beaucoup de propositions, notamment des mises en espace, des lectures, on était ensemble sur des pièces, et on a vite travaillé en autonomie, parce que Christian Scaretti nous faisait confiance et nous donnait comme ça des tâches à faire, donc on a beaucoup collaboré ensemble, avec aussi Clément Morinière et tous les membres de la troupe.
Vous êtes tous issus, je crois, de... Mince, Isa, je te coupe une seconde. Vous êtes tous issus, je crois, de promotions qui se suivent. 65e, 66e, 67e, 68e, je crois. Il y a donc également, on peut les nommer, hein, Olivier Borle. Quoique, Olivier Borle, je ne sais plus s'il sort également de l'ENSAT.
Ah si, tout à fait.
Clément Carabédian, Clément Morinière, oui. Julien non plus. Donc vous, c'est Gauthier, il y a l'autre Julien, Julien Tiffen.
Oui.
Et puis pour ce qui est des filles, je ne sais plus, Jeanne Brouet, Laurence Besson, Juliette Rizou. C'est
Juliette
également Rizou, l'ENSAT.
Clémentine Verdier, oui.
Et ces mêmes promotions, 65, 6, 7, 8, c'est ça, plus ou moins des...
Ça s'étend sur une petite dizaine d'années.
Voilà, sur le menteur, il y a aussi Raphaël Huou, qui est une promotion au-dessus.
Alors, un peu antérieure.
Je ne sais plus, 60...
Antérieure, oui.
60 peut-être.
Je me souviens plus.
Ouais, plus, numéro, plus
Vous Damien, c'est laquelle, c'est quelle promotion?
65. Et donc 65e. Moi, j'ai en fait, on est arrivé au TNP pour Coriolan de Christian Scaretti.
Avec Vladimir Yordanov.
Nada Strancar. Enfin voilà, là, on est arrivé. En fait, il a beaucoup aimé notre promotion 65. Et donc, comme il montait le Shakespeare, il avait besoin de beaucoup de garçons. Donc il a proposé à Clément Morinière, à Julien Tiffen, à Samuel Taïs, les quatre garçons de la promotion de l'ENSAT. Et on est tous rentrés au TNP pour ce spectacle, et c'est l'année où on a commencé aussi les premières farces de Molière. Les trois premières
qu'on avait montées. On n'a pas du tout évoqué ça. Ouais.
Et ensuite, on avait monté aussi, c'était cette année-là où on avait monté Premières Armes, qui était un texte de David Mambouche, mis en scène par Olivier Borle.
Lui aussi, il en sort, hein, David Mambouche.
Exactement, David Mambouche qui était au-dessus de moi, dans la promotion juste au-dessus, 64 donc.
Metteur en scène de Juan, que nous avions reçu il y a de ça deux ans, je crois, deux ans
tout
et quelques.
Tout à fait, exactement. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est voilà, ce cycle-là qui continue un petit peu. Et puis voilà, dernièrement on a accueilli, c'est pas moi qui ai accueilli, mais Margot Le Mignan qui est sortie en fait il y a deux ans maintenant ou trois ans de l'ENSAT, qui jouait Antigone, qu'on a repris là au mois de mars il y a trois semaines au TNP.
Un texte de Siméon, voilà, avec Electre aussi. Nous avions au téléphone Jean-Pierre Siméon en septembre dernier pour ces deux pièces.
Pour Antigone et Electre.
Vous avez dit quelques mots.
Dans lesquels nous y étions. Voilà.
Ouais. Isa, tu avais une question, toi.
Oui, tout à l'heure vous disiez que vous étiez plus attiré par le théâtre que par le cinéma.
Oui.
Est-ce que c'est pas paradoxal dans le sens où finalement le cinéma offre déjà une possibilité de gagner mieux sa vie que le théâtre, et en plus d'être plus connu, d'être plus finalement tarifié que...
Oui, effectivement, oui, théâtre, c'est vrai que le cinéma, ça fait très envie, hein. Mais après, il y a la réalité de la vie aussi quotidienne qui fait que, bon, moi j'ai tout fait pour pouvoir faire du théâtre, c'est-à-dire les écoles, ensuite rentrer dans le théâtre. Ça demande en fait, tout simplement, de venir tous les jours au théâtre. Donc, par ailleurs, j'ai un agent à Paris qui est très fidèle et tout, qui m'a conservé dans ses fichiers, mais elle n'a pas d'espace pour me faire travailler, dans le sens où je suis occupé toute la saison au TNP, avec le théâtre Empire Doré, avec la bande à Mandrin aussi, que dirige Juliette Rizou. On a une activité très soutenue avec, je ne sais pas, une moyenne de 10 spectacles par an. C'est assez colossal, donc effectivement, le jour où peut-être le rythme se calmera au niveau théâtre, bien sûr que j'irai taper à la porte des directeurs de casting.
Et vous êtes jamais dit, je vais privilégier, enfin, je vais essayer de demander à mon agent de pouvoir me placer un peu partout au niveau du cinéma, et je vais peut-être privilégier une fois, enfin, le cinéma, si j'arrive à avoir un rôle important.
Si, bien sûr, ça m'a traversé l'esprit, mais il se trouve que le théâtre, c'est un sport d'équipe, hein, d'une certaine manière, et d'avoir une équipe qui fonctionne très bien, c'est très rare. Et c'est très précieux, et moi, pour rien au monde, je lâcherais cette équipe joyeuse avec qui on parcourt tout le répertoire international, avec vraiment beaucoup de plaisir et de qualité artistique, quoi. Donc... après, bah voilà, il faut faire des choix. Moi, pour le moment, en ce moment, ma démarche, c'est de faire ce choix-là, quoi, de poursuivre dans cette démarche-là. Après, effectivement, on a tous envie d'avoir des beaux rôles dans les films de Jacques Audiard, mais on verra pour dans 2 ans.
Et alors, vous aviez la parole, Damien Gouy, on vous l'a reprise, et c'est intéressant, vous parliez à l'instant, Julien Gauthier, d'une équipe, donc oui. Vous en faites partie, complètement, Damien Gouy, puisque vous êtes promotion un poil avant, un peu avant,
Julien, 65, c'est 66,
moi 66.
On s'est côtoyé 2 ans à l'école.
Et alors vous, votre parcours, hein, comment est-ce que, êtes-vous comme Julien, comme Obélix également, êtes-vous tombé très tôt dans la marmite de la potion magique du théâtre?
Alors moi, pas du tout, en fait. Alors moi, je suis lyonnais.
Ah, ça c'est bien.
ça c'est bien, voilà. Bon, je suis né à Saint-Priest, exactement, mais...
Commence encore mieux.
Mais voilà, ensuite j'ai toujours été à Lyon 9e, à Vez, et j'ai découvert le théâtre moi très tard, en fait, complètement par hasard. C'est un copain, en fait, sa tante donnait des cours de théâtre à Saint-Cyr en Mont-d'Or, dans un Chantal Pralu, je la nomme, parce que ouais, c'est un peu ma professeure, ma première professeure, ouais. Qui nous suit en fait depuis longtemps maintenant aussi, qui continue à nous suivre. Donc sur Saint-Cyr au Mont-d'Or, un atelier d'expression, voilà. Et en fait, c'est un copain que j'ai rencontré en 4e et qui me dit, je suis un peu emmerdé parce que je suis le seul garçon, il y a 8 filles. Bon, c'est le vendredi soir, est-ce que tu veux faire du théâtre? Alors moi, je connaissais rien du tout, et on est allé. En fait, ce qui me plaisait au départ beaucoup, c'était le fait d'être en groupe. Que ce soit le vendredi soir, une sorte de récréation un petit peu, et puis il y avait beaucoup de filles, donc c'est toujours plaisant. Et puis donc voilà, donc ça a démarré comme ça, et puis on en a fait 10 ans, et en fait c'est un atelier d'expression qui s'arrêtait à l'âge de 16 ans, ensuite ça continuait pas. Et nous, on avait un super groupe, et donc on s'est dit, bon, on va continuer. Donc on a monté en fait le groupe Entracte, voilà, amateur complètement, et puis au fur et à mesure, et puis on travaillait une pièce dans l'année, et puis en fait avec les sous qu'on arrivait à avoir sur la fin de l'année, on se payait 3 jours au Festival d'Avignon, on se payait en fait des spectacles, on se payait le camping, voilà, et puis on allait voir 5 spectacles par jour à Avignon. Et là... a commencé un peu l'amour du texte. On recherchait chaque année, en fait, on passait le mois de septembre à lire, je sais pas, on lisait 40 pièces peut-être pour trouver exactement, voilà, il nous fallait 6 garçons, 6 filles, donc on cherchait des pièces comme ça, tout ça. Et au fur et à mesure, ça m'a plu, j'ai commencé à faire des choses un peu plus costaud avec mon parrain. J'ai un parrain en fait qui est comédien et sur Paris, en fait il donnait des stages amateurs, donc je suis allé faire un stage avec lui amateur. Et il mêlait amateur et professionnel, et puis en fait je me suis dit, bah c'est quand même ça va, c'est vrai que j'ai 10 ans de plateau un petit peu, de rapport public amateur, et que bon, techniquement tout ça, je suis pas très loin des gens qui veulent en faire leur métier. Donc j'ai cherché un cours sur Lyon plus costaud, et je suis tombé un peu par hasard au cours Myriade, que tenait Georges Montillier à côté, la rue Pizet. Et en fait, en arrivant dans ce cours là je me rends compte que c'est un cours qui prépare aux écoles nationales de théâtre. Je ne savais même pas qu'il y a des écoles nationales de théâtre qui existaient. Et donc, en fait, tout le monde venait dans ce cours-là pour préparer l'ENSAT, pour préparer le Conservatoire de Paris, pour préparer la Comédie Saint-Étienne, pour préparer l'ARAC, pour préparer le TNB à Rennes, pour préparer le TNS. Bon. Comme en plus là, bon, bah, comme toujours au théâtre, on était 3 garçons pour 18 filles, on a commencé à travailler. Et donc, comme les scènes filles-garçons sont nombreuses, quand on allait passer les concours, j'avais 16 ou 18 scènes travaillées. Donc les gens nous voyaient et on travaillait donc beaucoup en fait en tant que garçon. Et ça fait que là j'ai pris un peu ce plaisir-là de découvrir déjà beaucoup de pièces, beaucoup de textes que moi je connaissais rien du tout. Je viens d'un milieu très scientifique en fait. Voilà, je fais des études.
On fait un bac S
en parallèle de tout ça.
Bac S, bien sûr, option maths. Ouais. Et puis j'ai une maîtrise de biochimie en fait à la base, à Lyon 1, à la Doua, voilà. Donc moi je viens d'un milieu très scientifique et donc je découvre tout ce côté littéraire, toutes ces choses-là, les livres que moi j'étais très Mickey Parra des Picsou Magazine, voilà. Donc on a changé un petit peu d'épaule et donc tout ça je découvre et j'arrive à l'ENSAT un peu par hasard presque. C'est le seul concours où j'ai réussi d'ailleurs et ils ont bien voulu de moi. Et puis là, je découvre en fait ce que c'est que le livre, la structure d'une œuvre, comment une scène est écrite, les événements, toutes ces choses-là. Et moi, je suis quelqu'un de très curieux. Voilà, j'ai commencé à faire mon petit chemin là-dedans. Et puis on a rencontré Christian Scaratti en deuxième année. On a travaillé sur Strindberg. Lui, il montait père de Strindberg, Nada Stranka et Johan Lesen au TNP. Et donc on a fait tout le répertoire de Strindberg. Et puis derrière, donc il nous a bien aimé. On est parti sur Metterlinck. Et puis ensuite, il nous a proposé d'intégrer le TNP et là-dessus voilà, ça fait 11 ans qu'on travaille régulièrement au TNP dans des grandes formes, des petites formes, un peu comme on peut, comme on veut, et on a donc au fur et à mesure construit nous nos propres équipes, parce que le TNP reste une très grosse maison et donc on est au service de cette maison et avec des envies plus personnelles. Souvent, régulièrement, on a des envies de jouer ou de dire certains textes, et donc pour ça en fait on a monté des compagnies. Alors nous on voulait pas monter une compagnie pour un spectacle, et on avait l'envie de travailler ensemble. Je parle de Julien Gauthier, Amandine Blancard et Clément Morinière, et donc à quatre on a monté la compagnie Théâtre Empire Doré, voilà, qui est la productrice du spectacle Le Menteur, que nous jouons donc jusqu'à samedi soir.
Une appellation très locale ?
Théâtre Empire Doré, oui.
Qui a eu l'idée ?
Alors Théâtre Empire Doré, en fait, on part sur un autre sujet là, mais.
Ah mais il faut comme c'est, ça.
Ça
fait
très
transition.
Bien, ça fait la transition. Voilà. Bah, super. Et ben alors l'autre sujet, c'est en fait. Toute ma belle famille habite Thésée en Beaujolais, au-dessus de Villefranche, au château de, où il y a le château de Rochebonne. Et il y a quelques années, en fait, je découvre ce château, je découvre tout ce, voilà, j'ai de belles familles viticultrices et je découvre tout ce territoire des pierres dorées, en tout cas, avec cette vigne du Beaujolais. Moi, j'avais une très mauvaise image en tant que Lyonnais avec le Beaujolais nouveau. Donc, je découvre le vrai Beaujolais, ce qu'est le vrai Beaujolais, qui n'est pas quand même les grands crus encore, mais qui reste le bas et qui, on est toujours en Bourgogne, donc c'est quand même du vin très sympa. Et je découvre ce château, en fait, où il y a déjà un festival de musique. Les rendez-vous de Rochebonne, tenu par, j'oublie toujours son nom, Hervé Bio, qui est un pianiste international et qui habite dans le coin en fait, et qui ça fait c'est 13e édition même qu'il va faire en mois de septembre. Et donc je rencontre le maire un peu par hasard de Thésée, et puis je lui dis c'est quand même bizarre, il faut faire quelque chose là, il y a rien qui se fait au château.
La musique, mais dopo les paroles. Après la musique, quand même les paroles. Donc vous demandez.
Ouais, oui, c'est ça, théâtre. Exactement. Ouais. Pardon, je parle pas beaucoup italien.
Moi non plus, à part spaghetti et Chianti, je ne sais rien dire d'autre.
Non, mais donc il me dit vas-y, sur un week-end, je te donne les clés du château et puis fais ce que tu veux. Et donc il y a 5 ans, c'est au moment même où le TNP, on redémarrait donc 2011 avec Ruy Blas, réouverture du TNP, donc on change un peu de statut, on est sur certains spectacles et plus sur d'autres, on a un peu plus de temps, on a des envies personnelles à faire, et j'avais monté pour le festival d'un copain, j'avais monté Louis Aragon, je me souviens, qui était un spectacle autour du roman inachevé de Louis Aragon, et donc avec des bouts de ficelle, on a réussi à faire une petite programmation comme on pouvait pour ces premières rencontres de Thésée, parce que c'est le titre qu'on a donné au festival, les rencontres de Thésée. Et de là, a commencé à... on a démarré vraiment tout seul avec la famille, avec 40 spectateurs. Et puis, au fur et à mesure, là, nous allons constituer la 6e édition les 23, 24 et 25 juin prochains, et avec de plus en plus de spectateurs, de plus en plus de propositions, des gens qui veulent travailler avec nous, des choses comme ça. Et donc, l'idée, c'est sur un week-end, on investit le château, toutes les salles qu'on peut disponibles, et puis où le public a le droit de venir, puisque comme c'est un vieux château, il y a des salles qui sont encore inatteignables, mais on va bientôt faire des travaux, on y arrivera, pour faire un vrai théâtre dans ce château-là. Non, mais il y a toute une cour intérieure qui est magnifique.
Qui date du 16e.
Non, c'est un château du 18e, je crois, en fait. Et alors, ce qui est beau, c'est que c'est une petite fille qui a grandi au château de Grignan et qui, en fait, a demandé à son mari, elle voulait retrouver le château de son enfance. Et donc, la façade du château de Rochebonne, c'est la façade réduite du château de Grignan. Uh-huh. Et donc, il y a toute une histoire de corrélation. Et à l'intérieur, il y a même un...
De correspondance, de on pourrait dire.
Voilà. Exactement, exactement. et à l'intérieur, il y a un escalier florentin qui, paraît-il, il n'y en a que deux en France. Uh-huh. Et, ils ont fait venir, en fait, cet escalier directement de Florence, enfin, c'est l'architecte de Florence. Et bon, qui est inaccessible au public parce qu'en fait, il n'est pas aux normes, mais c'est magnifique. Et donc, à l'intérieur, il y a plein de petites histoires comme ça, château de Rochebonne. Et puis, même Thésée en Beaujolais a elle-même beaucoup d'histoires avec les bois à côté. Il y a plein de choses. C'est quelque chose d'assez historique aussi. Et on essaie de mettre un peu ce patrimoine-là aussi en valeur. Voilà, nous, on est très proche de la langue française, du patrimoine culturel que nous portons, parce que souvent, on décrit quand même assez régulièrement l'acteur français, la langue française, enfin, toutes ces choses-là. Et nous, on est quand même contents d'être en France et puis de se dire que c'est un joli pays. Donc, on essaie de...
Les arrière-arrière-petits-fils de Corneille.
De Corneille.
De Racine. Ouais, et au moins. Ce château est ouvert lors des journées du patrimoine.
Alors, lors des journées du patrimoine, et puis même si on veut le visiter, on demande à la mairie, je crois qu'il y a des guides, hein, au départ, et puis donc on a toujours été suivi dès le départ par le maire et puis par son équipe culturelle et son équipe municipale. Et là maintenant, bah voilà, au bout de 6 ans, on commence à avoir le département qui vient, la région qui se met en place avec nous aussi.
Méfiez-vous voilà, de pas trop grandir.
Non, mais de toute façon,
il n'y a pas que des avantages à grandir.
C'est vrai, c'est vrai. Mais là pour l'instant, ce serait bien.
On va parler de certaines festivités.
Non, mais ce serait bien de grandir un peu quand même. Il faut un juste milieu.
Après, vous aurez 50 bénévoles en t-shirt et des écrans en fait, gaffe.
On sera sur tous les... Voilà. Mais d'où théâtre en pierre dorée, parce que les rencontres de Thésée, en fait, au bout d'un moment, il a fallu se structurer. Donc, on a créé notre compagnie pour aussi accueillir les productions, tous nos spectacles en production. Et donc, depuis 3 ans, on a créé cette compagnie, Théâtre en Pierre Dorée, pour être aussi présent sur le territoire des Pierres Dorées, puisque donc voilà, la communauté de communes, 34 communes sur ce territoire-là. Avec, c'est une lumière magnifique. C'est des très beaux paysages aussi, les paysages de la vigne. Enfin, il y a tout qui fait qu'on est bien. On passe nous chaque année en fait beaucoup de temps là-bas pour préparer, pour être en relation avec les gens.
Et c'est vrai que
même pas on a du mal. on se nourrit de la langue française. C'est une très belle nourriture déjà.
Et est-ce que vous travaillez sur d'autres spectacles?
On travaille sur trop d'autres spectacles. mais si on travaille sur beaucoup de choses.
Par exemple, j'ai un spectacle en tête comme ça, La Jeanne de Delteil.
Oui.
Qui est porteuse de ce projet, et est-ce que ça a bien commencé, je crois, justement aux rencontres de Thésée?
Pas La Jeanne de Delteil. La Jeanne de Delteil, en fait, c'est un spectacle de Christian Scaretti qui a monté ça en fait il y a très longtemps à Reims avec une des comédiennes de sa troupe de Reims. Et quand il est arrivé au TNP en fait, et que Juliette Rizou est arrivée au TNP, il a proposé à Juliette de reprendre le spectacle qui était avec je ne sais plus cette comédienne, Camille Granville. Que j'avais vu moi en fait à l'ENSAT, je l'avais vu, il l'avait fait venir au grand plateau en fait du TNP, et donc il a proposé de faire une reprise comme nous en fait. Il nous a proposé aussi avec Clément Morinière de faire la reprise et Antoine Besson du Laboureur de Bohème qu'il avait monté. C'était un de ses grands spectacles à Christian, qu'il avait monté en plusieurs fois avec Jean-Marc Bory au départ et toujours avec Serge Maggiani dans La Mort. Et c'est un dialogue du laboureur qui vient de perdre sa femme avec La Mort. Et donc c'était une sorte de passation de spectacle en fait. Et la dernière mouture, c'était Didier Sandre qui jouait le laboureur. Et donc étant dans la troupe, il nous a dit travailler ce texte-là, et donc ensuite on l'avait joué au TNP dans Saint-Jean-Bouise aussi, pareil. Et donc pour La Jeanne de Delteil, c'était un peu la même chose.
Donc pas de rencontre de Thésée ici, parce que je sais pas, j'avais dans l'idée que les rencontres de Thésée c'était aussi pourriez-vous mal prendre la chose, mais qu'il y avait l'idée work in progress, que ce qui était montré à Thésée c'était pas forcément une version achevée de ce qui pouvait ensuite surtout être se dérouler sur les scènes du TNP à Villeurbanne.
Tout à fait. En fait, à la base, il y a beaucoup de choses. Nous, ce qu'on aime dans les rencontres de Thésée, on a vraiment appelé ça les rencontres parce que l'idée, c'est de rencontrer le public, en fait. C'est-à-dire que souvent, on s'est rendu compte, même au TNP, les gens commencent à rester un petit peu parce qu'ils commencent à nous connaître au bout de 10 ans. Et donc, on arrive à les rencontrer, à boire des coups. Mais souvent, en fait, nous, on sort et personne n'est là, en fait. Et donc, on a fait notre spectacle et puis on se rend compte que il n'y a pas d'échange avec les gens. Alors qu'en fait, le théâtre est fait pour se rencontrer. Et donc, de pouvoir partir comme ça 3 jours à la campagne, avec on essaye d'avoir par exemple un prix à la journée. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ils viennent voir un spectacle, le spectacle du soir, où ils viennent voir, ils payent 5 euros de plus et ils peuvent voir tous les spectacles de la journée. Et donc en fait, souvent, ça pousse les gens à se dire, ouais, bah, on va passer une journée avec eux en fait, voilà. Mmh. Et donc dans l'après-midi, on essaye d'avoir des choses différentes, avec des mises en espace, des lectures, des... En fait aussi, c'est qu'à la base, souvent, on a beaucoup de projets en tête, mais il nous faut du concret pour le finaliser, ce projet-là. Et donc, il y a des copains qui nous disent, moi j'aimerais bien travailler là-dessus. Je lui dis, ben voilà, je te donne ce créneau-là et tu fais quelque chose. Et une fois qu'on a cette date butoir, eh ben on fait tout pour que le spectacle ait lieu à cette date butoir. Mmh. Donc c'est souvent une première rencontre avec le public, après qui sera retravaillé. Par exemple, la première année, on avait monté Le Papa de Simon, qui est d'après une nouvelle de Guy de Maupassant. Parce qu'en fait, on a travaillé tout le samedi sur Guy de Maupassant. Et donc en fait, on travaille parce que Maupassant a écrit des pièces en alexandrin qu'on avait fait une lecture. Et puis on avait un spectacle avec des textes, avec des pièces de Maupassant en un acte. Et il nous fallait un spectacle pour enfants. Et donc on s'est dit, ben on va faire une adaptation de d'une nouvelle de Maupassant. Clément Morinière a lu des nouvelles de Maupassant. Le Papa de Simon lui a parlé. Il en a fait une adaptation. Et on a fait une première mouture au Festival de Thésée il y a 4 ans. Et ensuite, au fur et à mesure, on l'a repris, on a regonflé la chose, tout ça, c'est devenu un vrai spectacle qu'on a joué l'année dernière au TNP en décembre 2015.
Et encore cette année en tournée.
Et encore cette année en tournée, on est allé jouer à Brigné, on est allé jouer à Chassure, on a joué un peu partout. Et donc, voilà, et cette idée des rencontres de TD, c'est exactement à cet endroit-là. On se donne une date butoir pour faire quelque chose et pour se rencontrer, parce que, en fait, sinon, tout est en l'air et on le fait jamais.
C'est un laboratoire.
Donc, un laboratoire, un petit peu, voilà. Mais avec des parties communes, c'est-à-dire qu'on est toujours très précieux sur la langue. Après, en fait, on fait confiance aussi aux artistes qu'on invite. On a des gens avec qui on a envie de travailler et à qui on a envie de donner des plages horaires, avec qui, pour les mises en espace, par exemple, en fait, on a envie de travailler avec des metteurs en scène qu'on n'a pas rencontrés. Et c'est bien de se rencontrer dans le travail aussi. C'est-à-dire que oui, on peut se rencontrer à boire des coups, on peut se rencontrer dans les dossiers, on peut se rencontrer partout, mais dans le travail, c'est hyper important, en fait. C'est là que ça se fait. Nous, on prône le travail, en fait. C'est-à-dire que là, sur le menteur, la pièce, c'est un acteur et un texte. Enfin, je veux dire, oui, il y a de la mise en scène, oui, il y a du décor légèrement, mais la priorité, c'est de faire entendre le texte, de faire entendre... Corneille, il a écrit, c'est un auteur génialissime. On est au service de son écriture, et puis voilà, ça c'est le but du jeu. Et ben nous, en fait, c'est un peu la même chose, quoi. On prône cette chose-là.
Vous avez parlé de passation de spectacle entre Scaretti et vous, et vous êtes des passeurs de texte. Et on a très bien vu hier Christophe, puisqu'on était hier au spectacle, et c'était très bien. Et vous avez réussi à faire passer merveilleusement le texte de Corneille.
Alors attention, ce n'est pas une question, non, hein, Gérald,
non,
parce que il est quand même temps peut-être de faire une légère pause, parce que je crois que Damien va arrivé à bout de souffle. C'était quand même très intéressant. Et puis mince, Julien est quand même légèrement intervenu pour les dates, c'est ça, de décembre 2015. Tournée, vous avez indiqué, c'était bon, ces précisions. Le oui. Papa de Simon, fallait quand même indiquer, de donner ce genre peut-être de détails pour au moins vous faire parler. Puisque là maintenant, je pense qu'une fois qu'on aura entendu du Mingus, je crois que c'est vous, Julien Gauthier, metteur en scène de cette pièce Le Menteur, acteur, comédien principal, protagoniste, puisque vous incarnez Dorante. En face de vous, Damien Gouy et votre père, Géronte. Donc, petite pause musicale. On écoute un peu de Mingus parce que c'est l'habillage musical de la pièce, hein, Gérald, c'est ça.
Alors, très bon choix de morceaux de Mingus de l'album
mais
Mingus.
Mais ce n'est pas le même. Voilà,
ce ne sont pas les mêmes morceaux, mais bon, j'ai pensé à Mingus.
Et donc, après cette pause, nous retrouvons nos invités, Julien Gauthier et Damien Gouy.
Pour parler de l'actualité.
Et voilà, pour parler plus précisément de ce menteur de Corneille, 1643, parfait, donné jusqu'au samedi 8 avril. Gérald, tout est prêt. Quel nom
porte-t-il ? On écoute le début d'un long morceau de 22 minutes qui s'appelle Meditations for Integration. Vous êtes bien sûr Radio Canu 102.2. Vous pouvez nous écouter aussi sur internet.
RadioCanu.org. Et toi, que nous annonces tu Gérald ?
Nous écoutions Charlie Mingus à un concert de la Salle Wagram à Paris enregistré le 17 avril 1964. C'était Meditations for Integration, un morceau qu'on ne pourra pas écouter en entier, puisque nous recevons
Julien Gauthier
et Damien Gouy. Venez nous présenter Corneille, une excellente pièce d'1h45.
Le menteur de Corneille.
Qui porte la belle langue de Corneille, dont on va parler maintenant, plus précisément.
Une pièce donnée jusqu'au samedi 8 avril. Tu souhaitais parcourir la distribution, peut-être, Gérald, c'est ça
ou Non,
c'est pas comme ça. Alors, donc, laissons la parole au metteur en scène, peut-être, Julien Gauthier. Vous êtes à la fois, je l'ai indiqué un instant, Dorante, le comédien, le personnage, le protagoniste, personnage principal de cette pièce, mais vous êtes aussi le metteur en scène. Je vous en prie, un petit synopsis de la pièce ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette de ce spectacle que donc Damien pourrait parler parce qu'il a déjà commencé un petit peu étape de travail à Thésée il y a de cela quelques temps.
Alors, par où commencer ?
Assez compliqué.
Si vous voulez, alors moi déjà, le titre du menteur m'a tout de suite interpellé. Vous comprendrez pourquoi, parce que l'idée du mensonge est omniprésente dans nos vies. Et surtout, elle prête à engager du jeu. Parce que on peut voir dans des films ou dans des séries ou tout ce qui engage le jeu entre les acteurs, que les scènes où le mensonge est présent, tout de suite, l'intérêt du spectateur est en éveil. Donc c'est un procédé dramatique qui déjà m'intéresse. Ensuite, au-delà du titre, hein, parce que je n'ai pas lu que le titre, du coup, dans cette pièce, on voit un jeune homme étudiant en droit à Poitiers qui arrive à Paris et qui entreprend de conquérir les femmes de Paris, hein, en quelque sorte. Donc, c'est un sujet assez léger. On peut y voir des correspondances avec la Nouvelle Vague. On peut penser à François Truffaut. On peut penser comme ça.
Qui aimait les femmes.
Voilà. On peut penser à Douanel aussi. Alors la pièce en elle-même, c'est-à-dire on peut y voir une anecdote, puisque finalement c'est très léger, un jeune homme comme ça qui arrive et qui ment aux femmes pour leur dire que c'est un grand guerrier, qui ment à ses amis pour leur dire que c'est un homme qui organise des fêtes absolument incroyables, qui ment à son père pour refuser de se marier, pour pouvoir lui dit qu'il est marié pour pouvoir justement échapper au mariage obligé.
Et c'est terrible, il ment même à donc Clément Morinière, à Cliton qui est son fidèle
serviteur et confident.
C'est absolument terrible. Et d'ailleurs, si, voilà, c'est peut-être ça, cette chose à laquelle je pensais hors antenne, c'est Damien Gouy, ce rôle terrible que vous avez quand vous incarnez Géronte qui a cette grande scène de colère. Mais Gérald, on reprendra ça
c'est
ensuite.
Dramatique,
parce que, on a été scié par ça. Julien, oui, donc metteur en scène de la pièce, je vous en prie. Le mensonge, ça parle.
Le mensonge, au début, d'une certaine manière, est assez gratuit, un peu innocent. Et puis finalement il devient addictif parce qu'il fonctionne très bien et puis dans un troisième temps il devient nécessaire puisqu'il se fait embarquer dans ses mensonges et il est obligé de les justifier et tout ça, et puis jusqu'à la fin de la pièce il va essayer de retomber sur ses pieds en mentant une dernière fois, donc on peut y voir un éloge du mensonge. Mais pas au sens où le mensonge est une bonne chose, mais plutôt que le mensonge est une chose qui est stimulante pour l'esprit et pour l'inventivité. La morale de l'histoire sera, il s'agit pas de bien, de mentir ou de pas mentir, mais il s'agit de bien mentir. Donc déjà, je sais pas, ça éveille l'esprit. Enfin, c'est assez plaisant, quoi.
Actuellement, c'est ça, peut-être, non ? Ou dans l'actualité, mettons comme ça au hasard politique, il y aurait peut-être.
C'est là où on voit la différence entre la fiction, l'art, l'esthétique et la politique et la réalité.
Il écrit ça il y a 400 ans et que bon, voilà, il y aurait eu universel, quoi.
Il y a une pertinence encore actuellement. Et donc vous,
il y a
vous...
un goût du mensonge. On peut voir une mise en abîme de l'acteur et du mensonge, parce que qu'est-ce qu'un acteur sinon un menteur, puisqu'on est payé pour dire que on est
quelqu'un d'autre,
facteur ou plombier, alors qu'on ne l'est pas.
Vous êtes un étudiant en droit, Julien Gauthier.
Voilà.
Vous êtes Dorante.
Non, mais ce qui est amusant, c'est que d'ailleurs Corneille lui-même était étudiant en droit à Angers, je crois, donc ça doit être d'une certaine manière assez autobiographique, puisqu'en plus il a écrit cette pièce jeunesse après la mort de Louis XIII et la mort de Richelieu, donc qui avait une forte autorité sur lui, sur sa carrière, parce que c'était un auteur qui était attaché à un cercle proche de Richelieu. Comme ça, Richelieu passait des commandes à des auteurs pour traiter de sujets. C'était des pièces qui étaient destinées à la cour. Il y avait beaucoup de tragédies. C'est l'éducation de la cour, l'éducation des rois. Hein. Donc, il s'agit pas du tout de la farce comme on peut l'imaginer chez Molière ou voilà la Commedia dell'arte avant. Toute cette influence du XVIIe. Non, là, c'est vraiment le théâtre de cour. Et arrive cette période un peu de liberté autoritaire, disons, pour Corneille, où là, il va revenir à ses premiers amours littéraires et proposer une comédie, et il fera la grande comédie, voilà, qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent, d'une certaine manière, et qui annoncera plus tard la comédie de caractère de Molière. Parce que Molière, après, déclinera tous les défauts de caractère.
C'est 143, on est encore assez tôt par rapport à Molière, c'est un poil plus tardif.
Oui, mais Molière a vu cette pièce et a été très influencé, et il en parle, et il l'écrit.
Ça se sent.
Ouais, et ça se sent énormément. Donc c'est l'anoblissement de la comédie, cette pièce, parce qu'elle s'adresse à un public très exigeant, mais c'est aussi une période troublée où il y a la Fronde qui arrivera derrière, c'est la Régence, les gens ont envie de rigoler aussi d'une certaine manière.
Et alors, anoblissement, je vous coupe une seconde parce que je pense à ce que disait Damien Gouy tout à l'heure sur un goût du texte. Anoblissement par le biais de l'Alexandrin un petit peu pour cette pièce
Oui, alors il a déjà écrit des pièces en Alexandrin, oui,
Tragicomédie plutôt, ou illusion comique, si.
Oui, voilà. Non, si, il a écrit des pièces auparavant dans sa jeunesse. Il me semble que ça s'appelle Clitandre. Il me semble qu'il y en a deux, trois comme ça que je ne connais
pas. Un mélange de Cliton et de Périandre.
Voilà.
C'est amusant.
Non, mais puis l'Alexandrin, c'était la pièce à la cour. Enfin, il fallait que ce soit.
Oui, bien sûr, mais c'était le style de l'époque. C'est-à-dire voilà.
Oui, et donc, anoblissement, alors, précisément, puisque justement, cette matière devient. Et donc traité à l'égal des pièces de Racine ou de ces autres pièces à Corneille, elle est traitée en alexandrin avec tout ce qui était a priori plutôt, enfin non pas a priori, avec tout ce qui était davantage accordé à la tragédie à l'époque.
Alors, je pense pas que ça soit au niveau de la forme littéraire comme ça, parce que ces pièces auparavant étaient déjà en cinq actes et déjà en alexandrin, mais la spécificité ici, c'est que dans la farce, on a des processus, disons, assez connus, hein, de l'arroseur arrosé, par exemple. Dans la pastorale, donc tout ça, ce sont les styles qui influencent les styles du moment. Hein. Il y a des modes littéraires, quoi, comme le roman d'aventure et tout ça. Lui, en fait, Pierre Corneille, là, à ce moment-là, il va introduire une nouvelle notion qui nous amène à la modernité. C'est que le personnage n'arrive pas déjà porteur d'une histoire à raconter, porteur d'un sens. Comme on peut voir, par exemple, un amoureux qui arrive et qui va raconter toute son histoire, et sur cette histoire, il rencontrera un autre personnage. Non, ici, en fait, tous les événements arrivent à l'intérieur de l'action.
Oui, c'est intéressant. Dans la scène 1, il n'y a pas de mensonge. C'est ça qui, moi, m'a un peu...
Mais tout a un grand quiproquo qui génère le spectacle.
Je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'il se met à mentir, ce type-là, de manière éhontée? Pourquoi devient-il un mythomane?
Tout simplement parce que s'il dit la vérité,
c'est séduire,
il ne va pas réussir charmer les dames.
Il répond effectivement à Cliton, à Clément Morinière, dans cette pièce. Ouais. On n'arrête pas de vous interrompre. Je vous en prie, poursuivez. Vous étiez lancé sur cette présentation de cette pièce.
Non, mais je vous en prie. Je ne sais plus où j'en étais, là.
Si tu disais qu'il a porté la nouveauté, c'était que le personnage n'arrivait pas avec une histoire avant.
Avec un sens.
Oui, ce qu'on appelle la vraisemblance, d'ailleurs, à ce moment-là. Ça m'a beaucoup aidé pour le travail, pour nous mettre au présent, nous mettre dans un rapport de jeu où les choses arrivent. On n'est pas déjà porteur d'une pensée ou d'une humeur, mais on est en réaction à ce que produit le partenaire. Et donc, du coup, ça nous emmène dans une modernité, puisqu'on est, encore là. Ça a été très important pour moi, et ça a été important aussi un axe, ça a été de se détacher de la comédie. L'idée de la comédie, en fait, dans ce que je vous disais tout à l'heure sur l'anoblissement de cette forme, n'est pas forcément le recherche du comique, parce que il faut penser que à cette époque-là, la farce et tout, c'était réservé à un public, disons, méprisé par les gens de cour. Alors que là, c'est ça, anoblir la comédie, c'est-à-dire pouvoir la transmettre au public exigeant. Voilà, et du coup, En cherchant à ne pas être comique, ça m'a beaucoup aidé. Donc du coup, j'ai essayé de regarder la pièce comme un roman d'aventure. Parce que on voit des dissimulations d'identité, on voit une scène de balcon la nuit, on voit un duel avec un rival, on voit un père autoritaire, on voit un ordre social qui oblige les jeunes à se marier. Quand même, ça c'est très important dans la pièce, parce que c'est quand même l'histoire des jeunes qui vont lutter contre les plus âgés, qui oppressent d'une certaine manière cette jeunesse. Donc pourquoi mentir pour être libre ? Déjà, ça c'est un point important, et c'est un point qui nous écarte de la morale. Est-ce que c'est bien de mentir ou pas? C'est la nécessité de mentir dans un système d'oppression.
C'est la dimension politique du spectacle qui a vu sa censure peut-être.
Voilà, tout à fait, qui a occasionné la querelle du menteur. Ensuite, Corneille a dû s'excuser entre guillemets avec la suite du menteur, où il devra ensuite être beaucoup plus sévère avec le menteur qui sera jugé à la fin. Et c'est pour ça que la pièce, la suite du menteur, a moins bien fonctionné aussi, parce que c'est son côté émancipatoire qui a plu, je pense, au public. On voit un peu le même schéma qu'avec le Cid et Horace, puisque justement le Cid n'obéira pas à son père, et du coup Corneille aura presque une censure à ce propos, et il y aura la pièce de la réconciliation qui sera Horace par la suite. Donc on a un petit peu le même schéma qui est moins connu pour le menteur, mais l'évocation de la querelle du menteur est présente dans les esprits du théâtre, des comédiens. Voilà.
Sans parler du rapport maître à serviteur, qui est très intéressant, puisque ça bascule pas mal dans une forme d'égalitarisme parfois, ou un rapport entre eux qui est très passionnant, politiquement parlant, les femmes et les hommes aussi, parce que les femmes tiennent un rôle aussi très intéressant, puisqu'elles sont... Elle ment aussi bien que les hommes. Il y a des répliques très drôles, les gens se marrent beaucoup.
Et puis en plus, dans cette pièce,
un forme d'égalitarisme
finalement tout le monde ment aussi, en fait.
Oui, c'est ça.
On se rend compte que tout le monde ment. Moi, la première scène, en fait, où la jeune fille me dit, moi, je veux bien me marier avec lui, mais je voudrais le voir d'abord. Alors je dis, d'accord, je vais vous l'amener là, et puis vous pourrez le regarder. Et donc, quand j'arrive avec Dorant sur ma première scène avec Dorant, je dis, arrête-toi là, parce que je suis un peu fatigué là, et si on continue, je sens que je vais être malade. Enfin, déjà, donc le père, dès la première réplique avec son fils, il ment aussi. En fait. Ouais. Tout le monde ment dans cette pièce.
Tous les personnages, à un moment ou à l'autre, d'une certaine manière, tendent un piège à quelqu'un. Donc, lui font une pièce de théâtre, lui font une surprise. Donc, c'est ça aussi qui berce cette époque-là, c'est la mise en abîme, puisque juste avant, il y a eu l'illusion comique, immense œuvre sur la mise en abîme. Et là, on est directement dans cette influence-là. Donc, c'est le royaume des miroirs, de l'amour, des confidences, et des jeux, et des fantaisies, quoi. Ce qu'on peut voir même en architecture et tout. On peut voir.
Les folies.
Les folies, exactement.
Le style Marie-Antoinette, les artifices, le rococo, disons. C'est un spectacle un peu rococo, finalement. Avec un reste de rectitude, de morale, retour à l'antique, mais déjà des prémices de l'esprit révolutionnaire.
Hein. Voilà, c'est ça. Je dirais plutôt l'esprit libéral.
Oui.
Ils appellent ça libertin. Nous, maintenant, libertin, on y voit tout de suite des ébats sexuels excessifs, mais en l'occurrence, c'est pas forcément le cas. C'est une distance critique vis-à-vis de la morale chrétienne.
Voilà.
Qui permet de vivre avec plaisir ce que peut offrir la vie sans se brimer au nom de Dieu.
Alors de près laïcité.
auditeur, attention, je j'entends là, parce que moi je triche, hein, participe tous vous tous qui participez à l'émission, je triche, moi j'ai un casque, et donc j'entends un ton assez grave de Julien Gauthier, des propos qui sont bien posés, et pourtant il faut quand même dire que c'est une excellente comédie. Je vous entends dire j'ai voulu sérieux ça comme un roman d'aventure, et roman d'aventure c'est peut-être très intéressant, parce qu'il me semble que c'est la définition du roman qui est donnée par n'est-ce pas justement Louis Aragon, qui parle du mentir vrai. Donc pour le coup, enfin du moins il y a peut-être un rapprochement à faire, mais surtout, enfin je vous vois Damien Gouy pour cette scène que j'évoquais tout à l'heure de colère. Là c'est assez intéressant, parce que auditeur, je tiens à vous rassurer, cette pièce de menteur est vraiment une comédie, on rit, hein, mais
oui, bien sûr, non mais moi je vous donne les ficelles de mon travail,
mais c'est intéressant, mais pour le coup on rit, Gérald, hein, toi et moi on a été quand même un peu scotché par cette scène de
colère.
Quand
tu ris, je ris aussi d'ailleurs.
Cette scène de colère du père de peut-être de vous, Géronte, envers son fils Dorant. Peut-être, voilà une question à vous poser. Comment est-ce que cette scène a marché pour vous deux, c'est-à-dire vous, Julien Gauthier, metteur en scène, comment est-ce que vous avez voulu que la chose soit, et vous, Damien Gouy, comment vous l'avez perçu? Et parce qu'enfin, en tout cas, le fait est que ça marche et c'est génial. Et est-ce que c'était un moment nécessaire, un moment un peu de gravité? Est-ce qu'il fallait cela dans la pièce?
Bah après, il faudrait poser la question à Corneille, hein, celui qui a écrit. Non, non, mais c'est
vous, que. En tout cas, en fait, vous emportez correctement. Hein, bah, en gros, c'est je vais te tuer, mon fils.
Oui, oui, ouais. Bah, c'est sûr que c'est en fait au fur et à mesure des mensonges. L'acte 4, c'est quand même le summum de tous les mensonges où il dit que son meilleur copain, ils ont fait le duel ensemble et il l'a tué. Et puis juste, il arrive derrière. Oh, je suis trop heureux, je vais me marier, donc c'est super. Moi, j'arrive en fait en lui disant je vais écrire à ton beau-père, parce qu'il m'a fait croire qu'en fait il était marié à Orphis. Donc je vais écrire au père d'Orphis pour lui dire je veux voir cette fille. Et il me dit non, mais elle pourra pas se dépasser parce qu'elle est enceinte. Donc c'est vraiment, au fur et à mesure, il ment de plus en plus. Donc au bout d'un moment, en fait, ce mensonge qui arrive au paroxysme, tous ces mensonges arrivent au paroxysme, et le père se rend compte du mensonge. Et donc là, en fait, d'un coup, on tombe sur le Cid, au rage, au désespoir, au vieillesse ennemie, voilà, vieillesse facile, au jeunesse impudente.
Est-ce que vous le savez, ça?
Autocitation. Ah bah oui, autre mise en abîme complètement.
Quand Pierre Corneille écrit ça, il se rappelle, oui.
Ah bien sûr, il fait rire la salle en citant le Cid.
Tout à fait, oui, il y a les trois O, complètement, c'est là-dessus à fond, il y a ce petit monologue-là, de l'honneur perdu, de tout ça. Donc ensuite, il y a la rencontre avec le fils, mais ça terminera quand même que, par amour pour le fils, il va essayer de le sauver à nouveau, quoi. Donc il y a quand même quelque chose où l'honneur a été bafoué, mais l'amour est plus fort que l'amour du père est plus fort pour le fils que cet honneur-là. Non, mais c'est superbement bien écrit. On se laisse porter, en fait, sur cette musique-là. En fait, le vers, l'Alexandrin, amène quand même... c'est une partition musicale aussi, en fait. Alors, nous, en tant qu'acteurs, on se réfugie, on essaye de travailler au maximum le moment présent et la situation que nous a présenté la chose. Et il y a ce rapport, donc, au texte, qui est comme un rapport poétique à la musicalité du vers. Et, enfin, c'est vrai que je suis très sensible à tout ça. Et je sais que quand ils écrivent... ils font attention à telle syllabe, telle consonne qui arrive, telle chose. Tout à l'heure, je te parlais
d'un... Chaque son est choisi.
Son est choisi. On sait exactement pourquoi il met cette syllabe-là. Et ils sont super forts, en fait. Donc voilà, et il faut se laisser bercer par tout ça, en fait. Surtout.
Bah, moi, j'insiste encore une fois, et on va peut-être en rester là. Enfin, pour vous, Julien Gauthier, vous demandez quoi à ce moment-là? Vous demandez à Damien Gouy, qui incarne Géronte. Tu sors de toi, tu pousses des cris, concrètement tu cries, enfin du moins tu te... Vous attendez que ça devienne
pas,
un truc. Non, non, il n'y a pas de ça. C'est contenu, tu te contiens, mais tu fais passer un...
Ah bah, ça m'évoque justement un rapport au théâtre que je pourrais développer ici, mais après, bah, précisément sur cette scène, il s'agit d'une référence dans mon imaginaire à la scène où on se fait engueuler par notre père, quoi, tout simplement, parce qu'on a fait une grosse bêtise, quoi. Tout à coup, c'est plus rigolo. Il y a le commissariat, je sais pas, il y a l'école qui appelle.
Un peu d'autobiographie, là, Julien.
Voilà, peut-être, ouais. Il y a des choses qui tout à coup deviennent sérieuses, quoi. Jusqu'à désavouer carrément, déshériter et tout, son fils.
Donc,
ça devient grave. Voilà, tout à coup, ça a des conséquences. Et puis ça passe par plein d'étapes, la scène est très riche, donc nous on essaye simplement de suivre les étapes de la narration qui sont à l'intérieur du texte.
Vous dites beaucoup nous, tout de même, étant metteur en scène, en fait ça a plus ou moins été tiré au sort, c'est ça, ou c'est quand même vous qui portez le truc?
Non,
c'est-à-dire
c'est moi qui... En fait, moi, c'est pour ça, je dis nous, parce qu'on est dans un rapport de troupe où on travaille tous ensemble. Après, bon, moi j'ai choisi cette pièce, je l'ai soumise à mes camarades et ils ont accepté de monter cette pièce parce que le projet leur paraissait pertinent. Après, dans le rapport au théâtre, la conception du travail, la mise en scène ici est ainsi nommée parce que c'est plus clair pour tout le monde que c'est moi qui ai fait le spectacle, parce que sinon j'allais me cacher d'une certaine manière derrière le groupe, alors que bon, c'est un travail colossal à mettre en œuvre. J'ai l'impression d'organiser un mariage tout seul, un peu, pour vous résumer les choses, enfin tout seul, j'exagère, parce que Damien m'a énormément aidé, entre autres, ainsi qu'Amandine Blancard et Clément Carabédian.
On va tous les citer.
Oui, on les citera. Mais en fait, juste pour insister sur un point, c'est moi, je pense que l'artiste, c'est l'auteur. C'est-à-dire lui qui se sert de l'art dramatique pour transcrire des idées en action. Les actions sont représentées sur scène et racontent une histoire. Moi, en tant qu'acteur, je suis un interprète. Donc je me dois de bien lire entre les lignes pour comprendre ce qui est indiqué par l'auteur. Donc mon guide est l'auteur. Après, le désir de mise en scène, d'une certaine manière, est un habillage. Après, quand je choisis le jazz, je vais dans le sens du côté aventureux et de suspense de la pièce, mais pour servir la pièce. Quand je choisis le tréteau, c'est pour aller dans les contraintes de notre compagnie, parce qu'on joue souvent devant des parterres de chaises où on n'a pas assez d'argent pour le gradin. Tout ça, ce sont des contraintes. C'est pas une question de choix. Je ne suis pas créateur ici. C'est malgré moi. Ce qui se passe, c'est que je pense que la mise en scène est un travail, en tout cas pour moi, d'interprétation. Et j'insiste là-dessus parce que c'est pas toujours qu'on voit ce rapport aux choses, et c'est quelque chose qui est très important pour nous en tant qu'acteurs.
Alors nous, Gérald, tu les as sous les yeux ?
Oui, alors bon, ça marche
très
bien.
Les artistes associés.
Ça confirme la sensation du spectateur qui est d'accéder de manière très agréable à ce texte qui pourrait paraître compliqué, ardu, difficile, mais en fait qui coule comme de l'eau de source avec sa musicalité. Là. Et vous mâchez les mots avec une force et vous nous faites comprendre simplement par des intonations qui sont toujours justes le sens de ce que vous dites, qui pourrait parfois nous sembler éloigné, lointain, etc. Et c'est ça qui est très fort.
C'est le métier d'acteur. Hein,
voilà, mise en scène minimaliste, passeur. Donc il y a 9 acteurs sur scène.
Acteur ou comédien, une prochaine fois.
Laurence Besson qui joue Isabelle, Amandine Blanquer joue Clarisse, Clément Carabédian joue Alcip, Julien Gauthier, donc ici présent, émetteur en scène, joue Dorante, Damien Gouy le menteur, Damien Gouy Géronte joue son père, ici présent, Raphaël Huou joue Lucrèce, Clément Morinière l'excellent Cliton, et Juliette Rizou Sabine, et Julien Tiffen Philiste. Voilà, ouais. Et bon, mise en scène scénographie, Jessica Chauffer, Julien Gauthier... Des costumes très smart, hein, qui sont un peu aidés par une grande créatrice de mode qui fait beaucoup de mécénat culturel, dont je ne citerai pas le nom, mais vous l'avez tous reconnu. Les lumières sont pas mal, très sobres aussi. Bon, c'est très efficace, c'est la place au génie de cette pièce et de Corneille, hein, qui est révélée. Je ne connaissais pas le texte, et même quand, chers auditeurs, auditrices, allez-y, et si vous ne connaissez pas le texte, vous pourrez boire ce texte.
Ah merci oui, beaucoup. boire, c'est
ouais,
ça.
Ouais. C'est ça.
Ah, c'est souvent qu'on dit qu'on voit avec nos oreilles. Aussi. Et on écoute avec nos yeux. C'est Shakespeare qui
dit ça. Non, mais il faut quand même le dire, c'est absolument génial. Moi, je l'ai donc lu, j'ai triché peut-être, je l'ai donc lu la veille et j'ai trouvé ça absolument génial à la lecture, mais le voir, c'est sans comparaison. Il y a des choses qu'on remarque encore plus, encore mieux, c'est absolument épatant.
Moi, le mensonge est prétexte à fabulation poétique, on l'a pas dit, mais c'est quand même ça, ce texte.
Gérald, je comptais terminer sans générique.
Ah, l'opportuniste de Dutronc pour dire la réalité politique du mensonge.
Non, on va rester dans le jazz.
Une prochaine fois.
On va rester dans le jazz, on va écouter Billie Holiday Without Your Love.
On n'aura pas parlé de la suite, on n'a pas parlé de
l'avenir. Oui,
bon, il faudra qu'on revienne.
Ah, j'ai trop parlé.
Si, peut-être, allez, une minute, que souhaitez-vous évoquer? Le spectacle
alors,
se continue.
On a rencontre de Thésée. Voilà, rencontre de Thésée. Donc, la prochaine rencontre, 6e rencontre, 23, 24, 25 juin
vendredi,
prochain.
Vendredi, samedi, dimanche, c'est ça?
Voilà. La prochaine création, Théâtre Empire Doré. Donc, ce sera pour les rencontres de Thésée, un montage de texte sur Raymond Devos. Voilà, un petit cabaret, un petit comité à deux. Et puis, retrouvez-nous la saison prochaine. Le Devos sera créé au Théâtre des Marronniers en janvier 2018, et nous allons finaliser une création que nous avons fait aussi, une étape de travail que nous avons fait l'année dernière au Rencontre de Thésée. C'est le Ploutos d'Aristophane qu'on jouera à Chassieux en novembre prochain. Ploutos d'Aristophane, qui est un texte magnifique aussi, adapté par Clément Morinière, avec toute l'équipe du Théâtre Empire Doré.
Caravane Théâtre
à Chassieux, voilà, le 10 novembre je crois. On a 15 jours en fait résidence début septembre pour finaliser ce travail qui est tout sur un thème de l'argent, et c'est super. Aristophane, argent, politique, c'est drôle, c'est comique. Et on s'amuse beaucoup aussi sur ce spectacle-là. Voilà, c'est à peu près tous les... Et puis, la tournée du menteur, on va automne 2018, on est en train de mettre en place.
Ouais, ouais.
Quelques lieux déjà ? TNP peut-être ? Oui, ce sera repris.
Alors éventuellement, peut-être.
On va travailler à proche du Rhône, au sud de Lyon.
De nos invités qui allaient souvent dès le plus jeune âge.
Capitale d'Autriche également, mais bon, enfin, c'est
alors, mais c'était non. Le Menteur de Pierre Corneille avec nos deux invités qui sera joué du jeudi 30 mars au samedi 8 avril 2017, 1h45. Attention, dans le petit théâtre de la salle Jean Bouys, pas dans la grande salle, mais la salle était complète. Ils ont eu une ovation bien méritée.
On a rajouté à 14h30 le samedi. On joue
14h30 le samedi.
On joue deux fois le samedi.
Et c'est bon de venir à 14h30.
Et allez-y, c'est un
des plus
grands plaisirs de théâtre.
On est peut-être plus sensible encore au texte.
Merci encore.
Merci beaucoup
à vous d'être venus.
Merci à vous. On écoute donc, on l'a
dit. Billy et Lester Young pour le jazz.
Voilà, jazz. Et sinon, pour ce qui est de. Et sinon, pour
l'amour aussi.
Très bien. Pour ce qui est de vous tous auditeurs, on va retrouver maintenant Pascal pour le blues des Canuts. Comme d'habitude, entre 15h et 16h, mon Dieu, on est en train de manger sur son créneau horaire. Et puis ensuite, un peu plus tard, à 16h, pas de son bateau. tard. Non, pause actuellement. 17h, on n'arrête pas le prog. 18h, méga combi. 19h, Canu Info. Voilà, vous avez tous les programmes de la journée. Restez à l'écoute de Radio Canu. Quoique, il fait beau ces jours-ci, sortez peut-être un peu. Et puis si vous sortez, poussez, poussez jusqu'à Villeurbanne. Gérald, on a tout coupé. Que veux-tu dire, Gérald? La semaine prochaine, surprise. Surprise, vous verrez de quoi il s'agira. Auditeurs, merci encore beaucoup à nos invités. Allez les voir sur scène, c'est absolument génial, c'est splendide. Pour l'instant, Blues des Canus, mais dans un premier temps, Billy Holiday, générique de fin d'émission. Ciao tout le monde, bye bye.